Voilà, Olivier vous a donné le thème du message. L'unité passe par pardon et la réconciliation. C'est un thème, je pense, qui reste toujours d'actualité. Et peut-être plus aujourd'hui que jamais. Je lis comme support quelques versets dans les Éphésiens, au chapitre 4, des versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance en votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Paul exhorte les Éphésiens à rechercher par-dessus tout l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et rappelons-nous que c'est au travers du ministère de Paul que le dessein de Dieu, faire des Juifs et des païens un seul peuple uni à un même chef, Jésus-Christ, est devenu une réalité. Alors, il ne faut pas confondre. Unité ne veut pas dire conformité. La suite du passage le prouve. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui, unité ne veut pas dire uniformité. C'était ça le mot que je voulais souligner. Et nous avons à travailler et à garder cette unité. Il n'y a rien de plus désolant de voir le témoignage des chrétiens ruinés par leur désunion. L'unité, nous dit le dictionnaire biblique, n'existe que sur la septuple base indiquée dans le texte que nous venons de lire. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Remarquons que tous ces éléments sont de nature spirituelle. Cette unité d'essence spirituelle ne doit pas rester invisible, loin de là. Par la repentance et par l'amour, ainsi que par tous les moyens pratiques, nous devons absolument la manifester dans nos familles, premièrement, puis dans nos communautés et plus largement dans le monde entier. Et les ingrédients sont stipulés par Paul : l'humilité, douceur, patience, se supporter les uns les autres, avec amour. Christ lui-même a prié pour l'unité des siens dans Jean 17, 21, « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un comme nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Pour que l'unité soit réelle, authentique, il y a un passage obligé qui se résume en ces deux mots, pardon, réconciliation. Je vais vous relater une expérience personnelle que j'ai vécue il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, je pense, alors que j'étais toujours en activité avec la mission contre la lèpre. Peut-être que deux ou trois parmi vous vont se souvenir de ce que je vais vous dire, puisque j'en avais témoigné ici même. C'est une expérience qui m'a marqué vraiment au fer blanc, comme on dit. Et depuis, ces deux mots sont toujours restés gravés dans ma mémoire. Un dimanche de mars, ici même, ce qui n'est pas coutume, nous avons organisé un culte par atelier. Dans le petit groupe que nous étions, réunis pour la prière et la louange, j'ai exprimé tout mon fardeau. J'ai dit que j'arrivais au culte chargé, fatigué, j'en avais marre. J'avais passé une nuit d'insomnie, j'avais ruminé toute la nuit sur ce qui s'était passé la veille. Le samedi matin, à 8 heures, un collègue représentant de la mission en Suisse allemande me téléphone furieux. Il me dit tout le bien qu'il pensait de moi en des termes très offensants. La cause de notre litige était simplement parce que je remettais en question la clause d'un article de nos statuts que nous devions adopter deux semaines plus tard. Il avait lutté pour qu'on apporte des modifications, et voilà que moi, je venais apporter un amendement. Il m'a menacé de faire scandale lors de notre assemblée générale qui allait se tenir le 16 mars à Lucerne. Après ce téléphone, j'ai dit à Ruth, « Maintenant, je suis moi-même confronté à ce genre de tension » qu'ont connu ou connaissent bien des responsables de mission ou d'église. Combien de fois dans mon ministère j'ai vu des fins de ministère malheureuses à cause de relations humaines désastreuses. Et chaque fois, ça me causait réellement un problème. Je me dis, mais où est Dieu dans tout cela? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, en tant que chrétien, à gérer nos différences. Pris à mon tour dans cette tourmente, je ne voyais pas la sortie. Sur ce témoignage exprimé ici dans ma prière, vous avez été deux ou trois à prier pour moi, et ça m'a fait du bien. D'avoir partagé mon ressenti, d'être entouré, a fait baisser la pression de quelques degrés. Faire baisser la pression ne règle pas le problème, mais ça fait partie d'un processus indispensable pour trouver une solution. Le lundi matin et mardi suivant, les prises de position ont été de plus en plus rigides de mon collègue, qui fermait toutes les portes à tout arrangement possible. J'ai dit alors à mon président que cette situation ne pouvait plus durer, que nous étions arrivés à un point de rupture. J'étais prêt à proposer la démission de ce collègue, le cas échéant, la mienne. Et cette même semaine, je devais me rendre deux jours à Paris pour assister à une autre assemblée générale de la mission en France. Et ce petit voyage tombait bien, parce que ça me permettait de prendre un peu de distance face à ce que je vivais. À la fin de cette assemblée, vers 17h, moi j'avais un train à 18h30, depuis la gare de Lyon, je me précipite pour aller prendre mon métro. J'avais 10 minutes entre le lieu où j'étais et le métro. Je marchais d'un bon pas lorsque j'arrive à la hauteur du temple de la Madeleine, qui était en réfection. Il y avait une grande toile, un grand treillis qui camouflait l'échafaudage. Et au-dessus de cette grande toile, il y avait une banderole avec deux mots inscrits qui m'ont frappé, mais vraiment en plein cœur, comme une bombe. Pardon, réconciliation. J'ai compris que la solution à mon problème était là. La démarche de réconciliation, elle était dans mon camp. Je ne devais pas m'attendre à un changement d'attitude de mon collègue. C'est moi qui devais être capable de pardonner l'offense reçue. Et peu importe ce qui en découlera. Arrivé à la gare de Lyon, j'avais 45 minutes avant de prendre le TGV, je me suis assis sur un banc de pierre à l'extérieur. J'ai pris un bloc, j'ai commencé à rédiger une lettre à l'intention de mon collègue. Je lui raconte mon interpellation par ces deux mots, pardon, réconciliation. Je lui dis qu'ils m'ont fait penser à notre relation qui s'est dangereusement détériorée ces jours, et je poursuis en ces termes. Je me suis dit que si nous voulions continuer de travailler ensemble en bonne intelligence, nous devions faire une démarche allant dans le sens de ces deux mots. Je continue en lui disant, nous continuerons certainement à nous affronter avec des idées différentes, mais je tiens à les vivre dans la paix. Parfois tes idées prévaudront, parfois ça sera les miennes. Peu importe, je veux les affronter avec sérénité. Si notre collaboration doit se poursuivre, ce que je souhaite, c'est qu'elle le soit dans le respect mutuel de nos différences. C'est dans cet état d'esprit que je viendrai le samedi 16 mars à Lucerne. Pardon si mes prises de position ont créé un blocage, et au plaisir de poursuivre notre route ensemble pour le bien de notre mission. Le lendemain matin, arrivé à mon bureau, je tape ce message. À l'ordinateur, je clique sur le bouton « Envoyer » et c'est peut-être l'avantage de la technique, c'est que là, on n'a plus le temps de réfléchir si oui, si non. Le message est parti. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Il était 9h44. À 11h17, je recevais la réponse de mon collègue. Salut Eric. Nous voulons continuer de travailler ensemble en bonne intelligence, même si nous allons nous affronter avec des idées différentes. Je tiens tout à fait à vivre aussi dans la paix. Amitié. Notre AG s'est passé dans la paix, sans problème. Le seul qui était au courant de tout cela, c'était notre président, et il n'en revenait pas. Dans nos délibérations, il n'y a pas eu d'affrontement. Une fois, c'est ma proposition qui l'a emporté, une autre fois, c'est celle de mon collègue. Mais tout s'est passé dans des bonnes conditions. Ce chemin, pour moi, a été difficile. Et même lorsque la solution m'a sauté aux yeux, il y avait encore une démarche concrète qui m'a coûté. Mais le prix en valait la peine. Ce collègue est décédé il y a 2 ans. Et je dois dire, j'ai été vraiment époustouflé, parce que jusqu'à la fin, juste avant qu'il décède, pendant toutes les années de ma retraite, c'est le seul du comité de la mission qui me téléphonait 2 à 3 fois par année pour savoir comment j'allais. Alors, souvenons-nous à quel prix nous avons été réconciliés, nous, avec Dieu par Jésus-Christ. Et ça nous aidera aussi dans nos démarches terrestres. Le message que je tiens à vous laisser ce matin, vous l'avez compris, il est en deux phrases. Efforçons-nous de conserver l'unité par le lien de la paix. Nous en serons tous bénéficiaires et le Seigneur en sera glorifié.